Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La crise migratoire, pierre d'achoppement de la construction européenne, l'Italie pose ses conditions avant d'accepter un compromis au sommet de Bruxelles. Dans un instant, les explications de Quentin Dickinson. Demain, les 28 examineront la réforme de la zone euro et notamment la proposition franco-allemande d'un budget de la zone euro. Nous en parlerons avec notre invité, l'économiste Éric Dor. Fusillade mortelle dans les locaux d'un journal américain à Annapolis, dans le Maryland. Il y aurait 4 morts et le tireur aurait été interpellé. Nous ferons le point avec Grégory Phillips à Washington. Emmanuel Macron, favorable à la limitation du droit du sol à Mayotte. De nombreuses femmes comoriennes viennent accoucher dans le département français de l'océan Indien pour donner la nationalité française à leur enfant. Nous verrons cela avec Louise Baudet. Dans ce journal également, la mise en examen du cimentier Lafarge, soupçonné d'avoir versé près de 13 millions d'euros, notamment à l'État islamique, pour maintenir l'activité de son usine en Syrie. Un dossier suivi par Florence Turm. Va-t-on vers un échec retentissant du Conseil européen de Bruxelles? En tout cas, il semble ce soir que l'Italie bloque l'adoption de conclusions communes sur un certain nombre de sujets. Le gouvernement populiste italien qui réclame à ses partenaires européens une plus grande solidarité dans la gestion des flux migratoires. La donne a changé depuis que Rome refuse d'accueillir dans ses ports les navires des ONG qui recueillent des migrants en Méditerranée. Nous sommes en direct de Bruxelles avec Quentin Dickinson. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Quentin, vous nous confirmez que la situation est bloquée ce soir en raison de l'intransigeance italienne ?
C'est un peu plus particulier que cela. L'optimisme, en effet, ne paraissait guère être de mise en début de soirée, compte tenu, vous le disiez, des déclarations peu amènes du chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, à son arrivée ici. Cependant, les exigences italiennes rejoignent, dans les grandes lignes en fait, les préoccupations de nombre d'autres États, et au cours de la dernière heure, on commençait à entrevoir les lignes d'un accord, certes incomplet, certes à minima, mais qui permettrait à la fois aux Italiens de crier victoire et à Angela Merkel de calmer les ardeurs répressives de son ministre de l'Intérieur. Bien sûr, tout peut encore capoter ce soir, mais une forme de consensus paraît émerger autour du maintien à distance des migrants, regroupés dans des lieux de vie contrôlés, le temps d'examiner leurs dossiers et d'accéder à leur volonté d'être considérés comme réfugiés ou au contraire de rejeter leurs demandes. Des dispositions seront alors prises pour assurer leur rapatriement rapide dans leur pays d'origine. Ces centres de tri pourraient se trouver en Afrique, voire dans l'un ou l'autre pays européen non membre de l'UE, comme l'Albanie. Il ne serait plus question d'une répartition des migrants entre l'ensemble des pays membres, mais uniquement entre les pays qui se porteraient volontaires à cette fin. En pratique, beaucoup dépendra des rapports de l'UE avec les pays d'origine et de transit, ainsi que de la montée en puissance du corps européen des gardes-côtes et gardes-frontières, dont les effectifs devraient passer à plus de 10 000 agents. On le voit, on ne discute ici que de missions répressives à opposer à des flux migratoires, dont le volume s'est pourtant effondré depuis le début de l'année. On cherche donc à apporter des solutions techniques en trompe-l'œil à des préoccupations politiques en grande partie artificielles.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles, merci. Alors normalement, la deuxième journée de ce Conseil européen de Bruxelles sera consacrée demain à la réforme de la zone euro. Sur la table, il y a cette proposition d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, formulée la semaine dernière à Meseberg, près de Berlin, mettre en place un véritable budget de la zone euro. Invité de ce journal, l'économiste Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et tous.
Éric Dor, quelles sont les chances de réussite de cette réforme de la zone euro, sachant que plusieurs pays ont déjà fait savoir qu'ils rejetaient les propositions d'Emmanuel Macron et Angela Merkel?
Alors effectivement, les chances sont incertaines parce qu'on touche demain à un dossier qui catalyse une opposition bien connue depuis plusieurs années entre certains pays autour de l'Allemagne et d'autres pays autour de la France et de l'Italie au sujet de la manière de réparer des failles bien connues de la construction initiale de la zone euro et qui tournent essentiellement autour de l'absence de fédéralisme budgétaire dans une union monétaire, alors que presque partout dans le monde, une union monétaire nécessite, pour toutes sortes de raisons, une certaine forme de fédéralisme budgétaire avec certains transferts fiscaux entre les États.
Donc pour vous, ce budget de la zone euro est une nécessité pour assurer la pérennité de la monnaie unique européenne?
Oui, et on peut l'expliquer très aisément, parce que dès le moment où, en faisant l'union monétaire, les différents pays européens ont renoncé à la possibilité de dévaluer par rapport aux autres pays européens. Lorsque ils ont par exemple une perte de compétitivité parce que leur salaire augmente plus vite que ceux des autres ou parce qu'ils sont touchés par un choc asymétrique, ben, dès le moment où ils renoncent à cela, la situation devient extrêmement complexe, comme en atteste par exemple la croissance de l'Italie, qui est extrêmement pauvre par rapport à ce qu'on peut connaître, bien sûr en Allemagne, mais même par rapport à la France. Et donc, il est assez communément admis par la plupart des économistes, hein, ce n'est même pas une question en fait de tendance économiste, presque tous les économistes sont d'accord pour dire qu'il faudrait quand même un minimum de fédéralisme budgétaire, par exemple de mutualisation de l'assurance des dépôts, des banques, qu'il y ait un filet de sécurité commun derrière les fonds de résolution des banques lorsqu'elles sont en difficulté, qu'il puisse y avoir certains transferts fiscaux quand un des pays de la zone euro est touché par des chocs qui lui sont spécifiques.
Et il faudrait davantage de solidarité de la part de certains pays comme l'Allemagne qui ont d'importants excédents budgétaires ?
Exactement, parce qu'il y a des gros problèmes de la zone euro telle qu'on l'a conçue, c'est que comme il n'y a aucune forme de solidarité, si ce n'est par des prêts comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, eh bien, il y a une grande asymétrie dans la manière de s'ajuster au choc. Tout le poids de l'ajustement repose sur les pays en déficit. Hein, par exemple, on va demander aux pays en déficit, comme l'Espagne, et ils l'ont fait, comme l'Italie, etc., de faire de l'austérité budgétaire, ce qui est assez logique, comme ils sont surendettés. Mais en même temps, l'Allemagne, normalement, s'il y avait une vraie coordination des politiques macroéconomiques, pourrait faire quand même un petit pas vers les autres, en acceptant de dépenser un peu plus pour ses propres infrastructures, d'ailleurs ce qui lui ferait du bien à long terme, et ce qui créerait une croissance qui profite aux autres.
Mais là, en l'occurrence, Angela Merkel a fait ce petit pas, puisqu'elle accepte le principe d'un budget de la zone euro.
Alors, il ne faut évidemment pas lui en faire grief, vu les contraintes politiques qu'elle subit actuellement. Hein. Elle a fait un pas à minima. Donc, le budget de la zone euro qu'elle semble concéder ne porterait que sur quelques dizaines de milliards d'euros, alors que l'ambition française était plutôt d'obtenir plusieurs centaines de milliards d'euros. Mais même ce tout petit pas est contesté par la droite de sa majorité, et en particulier la fameuse CSU, hein, l'allié
bavarois.
Angela Merkel, voilà, l'allié bavarois, qui conteste même ce tout petit pas qui est vraiment peu significatif, par principe, parce qu'en fait, il y a une grande peur en Allemagne, et certains autres pays qui la soutiennent, comme les Pays-Bas, comme la Finlande, comme plusieurs pays baltes, que les pays, par exemple du Sud, profiteraient d'une certaine mutualisation des risques dans la zone euro pour s'engager dans une gabegie des dépenses publiques aux frais justement des pays vertueux. Ce qui est une espèce de narration qui est exagérée évidemment, même si tout n'est pas faux, hein, dans le fait qu'il faut bien sûr que chaque pays ait une gestion sérieuse de ses dépenses publiques. Mais la crainte un petit peu exagérée de l'abus de la part de certains fait qu'il y a un refus total de solidarité qui risque de compromettre la survie à long terme de la zone euro.
Éric Dor, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je vous le disais dans les titres, on l'a appris peu après 21h, cette fusillade mortelle dans les locaux d'un journal américain, en l'occurrence le Capital Gazette à Annapolis dans le Maryland. Il y aurait au moins 4 morts. Alors nous sommes en ligne avec notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, est-ce que vous avez des précisions sur les circonstances de cette fusillade d'Annapolis ?
Alors écoutez, elle s'est produite dans ce quotidien local d'Annapolis qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres environ à l'est de Washington dans l'état du Maryland. A priori, un tireur isolé qui a été interpellé, un suspect en tout cas a été arrêté, et au moment où je vous parle, a priori la situation est figée si j'en crois ce que je vois sur mes écrans de télévision. Il y aurait des victimes, des blessés, peut-être des morts, entre 2 et 4 morts selon différents médias américains. Un journaliste du Capital Gazette qui se trouvait dans la salle de rédaction a écrit ceci sur Twitter. Il n'y a rien de plus terrifiant que d'entendre des gens se faire tirer dessus pendant que vous êtes caché sous votre bureau et que vous entendez le tireur recharger son arme. Telle est la scène qui est décrite par ce reporter du Capital Gazette. Pour l'instant, évidemment, la zone à Annapolis, la zone autour du journal est complètement bouclée. Le président Trump est dans l'avion Air Force One entre le Wisconsin où il était en déplacement tout à l'heure et Washington. Washington et il est tenu informé minute par minute de la situation.
Grégory Phillips en direct de Washington, merci pour ces premières précisions sur cette fusillade survenue à Annapolis dans le Maryland. On revient aux questions migratoires avec cette petite révolution qui se profile pour Mayotte. Emmanuel Macron est favorable à la limitation du droit du sol sur l'île française de l'archipel des Comores. Le chef de l'État s'en est expliqué aujourd'hui en présentant son livre bleu pour l'outre-mer. Mayotte, qui est depuis 2011 un département, est confronté à une explosion de l'immigration clandestine. Les explications de Louise Baudet.
Depuis les Comores, elles tentent la traversée à bord de frêles Kwasa Kwasa au péril de leur vie dans l'espoir que leur enfant naisse français. Ces femmes viennent accoucher à la maternité de Mamoudzou, hôpital saturé d'une île sous tension. C'est pour les dissuader que le Sénat vient d'adopter un amendement au projet de loi Asile-Immigration qui limite le droit du sol à Mayotte. Une évolution qui fait consensus, assure Emmanuel Macron.
Je soutiens cette démarche qui me semble adaptée et équilibrée. Nous devons, sur les sujets migration et de sécurité, apporter des réponses fermes. Elles sont la condition de toute stratégie à venir, éducative, culturelle, économique, pour nos territoires.
Dans la salle des fêtes de l'Élysée, la députée En Marche, Ramlati Ali, médecin à l'hôpital de Mayotte, applaudit.
Mayotte, c'est 375 km². On est en surpopulation. Ramener un petit peu le taux en France métropolitaine, que plus de 50% de la population n'est pas originaire de ce territoire.
Si l'amendement adopté au Sénat est confirmé à l'Assemblée, un bébé né à Mayotte pourra devenir français uniquement si l'un de ses parents vit régulièrement en France depuis au moins 3 mois. Mesure spécifique à l'archipel, plaide Ramlati Ali, pas assuré de convaincre tous ses collègues du groupe majoritaire. Car en France, le droit du sol est un totem et sa remise en cause un leitmotiv de l'extrême droite et d'une partie de la droite.
Louise Baudet, merci. L'étau judiciaire se resserre sur le cimentier Lafarge, mis en examen pour ses activités en Syrie. Le groupe franco-suisse a donc été mis en examen aujourd'hui en tant que personne morale. Entre 2011 et 2015, Lafarge, via sa filiale LCS, est soupçonné d'avoir versé près de 13 millions d'euros pour maintenir l'activité de son usine syrienne. Des sommes considérables qui auraient notamment profité à l'État islamique. Florence Turm, le groupe est mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité.
Oui, c'est la suite logique de l'instruction ouverte il y a tout juste un an et au cours de laquelle 8 cadres et dirigeants du groupe ont été mis en examen, mais avec une dimension supplémentaire que les ONG, parties civiles, n'hésitent pas à qualifier d'historique à l'échelle mondiale. Cette mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité prononcée vis-à-vis du cimentier Lafarge en tant que personne morale, une incrimination visée par la plainte initiale mais qui n'avait pas été retenue jusqu'à présent. Plus précisément, c'est la filiale syrienne de Lafarge, LSA, qui est soupçonnée d'avoir versé près de 13 millions d'euros pour maintenir à tout prix son usine de Jalabiya dans le nord de la Syrie, alors que le pays s'enfonçait dans la guerre et le chaos. Les responsables auraient ainsi acheté à des groupes armés, parmi lesquels l'État islamique, un droit de passage et de circulation pour leurs salariés et les matières premières. Voilà ce que recoupent les incriminations de financement du terrorisme, violation d'un embargo, mise en danger de la vie d'autrui, également prononcée, en l'occurrence celle des salariés qui ont dû fuir l'usine, finalement abandonnés dans des conditions extrêmes. Par ailleurs, d'autres soupçons sont apparus à la lumière de récentes investigations qui portent sur la possible vente de ciment au groupe État islamique lui-même. Cette enquête hors norme a déjà pris une dimension internationale. La justice belge s'est associée à l'information judiciaire ouverte en France et les États-Unis commencent à s'y intéresser. Ce soir, le groupe Lafarge annonce son intention de faire appel de cette mise en examen. L'ONG Sherpa, elle, lui demande d'ouvrir immédiatement un fonds d'indemnisation destiné à ses anciens salariés sans attendre la fin de l'instruction.
Florence Turm, quand le droit à l'oubli se heurte au droit à l'information, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté aujourd'hui la requête de deux frères allemands, deux hommes condamnés en 1993 pour assassinat, qui voulaient que leur nom disparaisse des archives des sites d'information. Camille Magnard, les juges de Strasbourg ont privilégié le droit du public à être informé.
Oui, c'est un arrêt important qu'a rendu la CEDH car c'est la première fois qu'elle se prononce sur une requête liée au droit à l'oubli numérique, le respect de la vie privée invoqué par ces deux frères allemands, donc condamnés dans une affaire d'assassinat il y a 25 ans, très médiatisée. Une fois sortis de prison, ils voulaient que les articles de presse archivés sur leur procès soient anonymisés. Mais la Cour de Strasbourg a donné raison ce matin au droit du public à être informé par les médias contre donc le droit à l'oubli numérique. Mais attention à ne pas généraliser cette décision, nous explique le spécialiste de la CEDH et professeur à Sciences Po Paris, Nicolas Hervieux.
La Cour se concentre sur les circonstances de l'espèce, en insistant d'abord sur le débat d'intérêt général qu'a suscité cette affaire en Allemagne. C'est une affaire qui a été très retentissante, donc n'importe quel fait divers ne serait pas traité à la même enseigne. Et le deuxième enjeu, qui est très important dans le raisonnement de la Cour, c'est le comportement des personnes qui souhaitaient l'anonymat. Eux-mêmes n'ont pas hésité à solliciter la presse pour médiatiser leur affaire à l'heure de solliciter de nouvelles voies de recours. Donc il y a dans l'analyse de la Cour d'abord une valorisation bien sûr de la liberté d'expression journalistique et du droit d'accès du public à l'information, mais pas de sacrifice pur et simple du droit au respect de la vie privée. Tout dépend de chaque affaire.
D'où la nécessité donc de traiter ces questions de droit à l'oubli numérique au cas par cas, affirme la CEDH. Elle fixe tout de même une limite pour ne pas que le droit à l'oubli numérique soit invoqué à tort et à travers. Elle rappelle enfin que l'essor des médias en ligne, bien plus que la presse papier, peut entraîner des atteintes préoccupantes à la vie privée.
Merci Camille Magnard. Un mot du temps demain qui restera généralement chaud et ensoleillé. Sur les reliefs, des orages éclateront en cours de journée. Température minimale de 12 à 21 degrés. Les maximales sont à la hausse de 20 à 25 degrés près de la Manche, 27 à 32 sur les autres régions. Localement, 33 dans le sud-ouest. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Belletto.